Il est 8h.
Le projet de loi hongrois est une honte. Il établit clairement une discrimination contre des individus sur la base de leur orientation sexuelle.
La Commission européenne blâme publiquement un État membre de l'Union, la Hongrie, où une réforme associe l'homosexualité et la pédophilie. Nous partons pour Bruxelles et Berlin dès le début de ce journal, alors que 17 pays européens veulent contraindre Viktor Orban à reculer. 50 millions de doses de vaccins injectées au total en France en 6 mois. Mais alors que le variant Delta explose par endroits, comment éviter un essoufflement de la vaccination? Le dossier d'Europe 1 à suivre sur ce que les spécialistes appellent le plafond de verre vaccinal. Et puis, à contre-courant de la traçabilité et de la consommation locale, les étiquettes des produits de l'agroalimentaire pourraient devenir moins précises sur l'origine géographique des ingrédients. Explication dans quelques instants. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Sa position a suscité une avalanche de réactions. En appelant à ne pas voter pour l'Alliance de la gauche en Ile-de-France, Manuel Valls a acté des gauches irréconciliables. L'ancien Premier ministre est mon invité ce matin. Rendez-vous 8h15.
On vous retrouve juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1, il est 8h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Le programme était déjà lourd à Bruxelles aujourd'hui. L'immigration, le face-à-face avec la Turquie, la relation avec Moscou. Mais c'est un sujet intérieur à l'Union européenne qui va animer d'emblée les discussions. Une question de droits humains, ceux des personnes LGBT avec ce projet de loi en Hongrie qui vise à interdire la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs et qui, au passage, établit un lien avec la pédophilie.
Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour.
Correspondante d'Europe 1 à Bruxelles, un front contre le dirigeant hongrois Viktor Orban est en train d'émerger.
Oui, c'est vraiment rare qu'entre membres du club européen, ça chauffe autant. L'émotion se ressent même chez les diplomates. C'est une ligne rouge, la pire loi que nous ayons vue. Orban doit la retirer au plus tard pendant le sommet, tempête l'un d'entre eux. Les dirigeants vont avoir une discussion les yeux dans les yeux, explique une source européenne. Quel sens cela a-t-il d'avoir un projet commun si on n'a pas les mêmes valeurs, s'interroge l'Élysée. À la Commission européenne, Ursula von der Leyen a tapé du poing sur la table.
Le projet de loi hongrois est une honte. Il établit clairement une discrimination contre des individus sur la base de leur orientation sexuelle. Il va à l'encontre de toutes les valeurs de l'Union européenne. Nous ne ferons pas de compromis sur ces principes.
Bruxelles a déjà lancé une procédure d'infraction contre la Hongrie. Elle peut se terminer devant la Cour de justice de l'Union. Évidemment, ça prendra des mois. C'est pour ça que les politiques misent plutôt sur la pression directe. Plutôt que de parler des plans de relance dans chaque pays, comme elle le fait en ce moment, la présidente de la Commission devrait faire un tour d'Europe avec un drapeau arc-en-ciel sur les épaules, suggère même le représentant d'un pays très remonté.
Isabelle Horry à Bruxelles est loin du terrain politique. Hier, c'est sur le terrain du football au sens propre que s'est exprimée la défense des droits des homosexuels.
La pelouse du stade de Munich a vu débouler un homme brandissant justement un drapeau arc-en-ciel juste avant la rencontre entre l'Allemagne et la Hongrie, Hélène Kohl.
L'UEFA a interdit que le stade de Munich soit éclairé aux couleurs LGBT. Qu'à cela ne tienne, rétorque le Bild, qui décrète la victoire de l'amour. Car en réponse, dans toute l'Allemagne, 46 stades ont été illuminés et aussi tous les bâtiments officiels de Munich. Plusieurs grandes entreprises ont rejoint le mouvement, comme Siemens ou BMW. Pour le journal de gauche Taz, ce n'est que de l'affichage politique. Cela ne devrait pas beaucoup impressionner le président hongrois Viktor Orban. Mais pour le Süddeutsche Zeitung, la tension était bien palpable dans le stade. Pendant l'hymne allemand, les supporters hongrois ont sifflé et hurlé des chants homophobes. Le journal s'interroge comment une toute petite idée symbolique a-t-elle pu se transformer en une telle polémique.
Revue de presse signée Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 à Berlin. Et puisqu'on évoque l'Euro de football, ne boudons pas notre plaisir de voir d'une part la France qualifiée pour les huitièmes de finale en étant première de son groupe et d'autre part Karim Benzema déverrouiller son compteur de buts sous le maillot bleu 6 ans après. Il en a mis 2 hier soir.
Je sens une telle attente de tout le pays, ce qui est normal pour moi, après 5-6 ans d'attente. Donc aujourd'hui, j'ai réussi à marquer, je vais savourer avec tout le monde. Personnellement, ça m'a fait chaud au cœur et j'espère qu'il y aura d'autres soirées comme celle-ci.
Et on l'espère aussi, Karim Benzema sur TF1 hier soir, 2 partout pour ce Portugal-France. En 8e lundi, ce sera la Suisse à Bucarest.
8h05 sur Europe 1, une courbe continue de descendre, on vient de repasser sous la barre des 10 000 malades du Covid hospitalisés. Une autre courbe continue de monter, celle de la vaccination.
19 700 000 personnes sont complètement vaccinées en France, mais alors que les vacances d'été sont à portée de main, la suite du processus ne risque-t-elle pas de s'essouffler? Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour.
Les scientifiques et les autorités sanitaires redoutent une sorte de plafond de verre vaccinal. C'est ce qu'ils disent, c'est le mot qu'ils emploient. Est-ce qu'on s'en approche et que disent les courbes?
Alors pour l'instant, ce plafond n'est pas atteint. La vaccination des jeunes reste dynamique et près de 50% des Français sont vaccinés avec une dose. Mais l'Académie de médecine redoute qu'une fois les 70% de vaccinés passés, le dynamisme de la campagne ne retombe, comme aux États-Unis. Statistiquement, cela pourrait arriver mi-juillet. Une hypothèse probable, confirme le professeur Jean-Daniel Lelièvre, qui est expert vaccin à la Haute Autorité de Santé, mais qu'il faudrait réussir à dépasser.
Si on est à un niveau de vaccination qui est insuffisant et qu'on abandonne tous les gestes barrières, ce qui va se passer, c'est la persistance à un niveau assez important de l'épidémie dans les populations qui sont non vaccinées. On ne sait pas ce qui pourrait se passer demain. Les variants actuels pourraient continuer d'évoluer. Et donc, il faut être relativement prudent. Et il va falloir avoir des niveaux de vaccination qui sont bien supérieurs. Si, bien entendu, on veut pouvoir au maximum arrêter les gestes barrières, le port du masque et tout ce qui va avec.
Alors aujourd'hui, il y a un sujet d'inquiétude. D'ailleurs, Jean Castex, Premier ministre, et le ministre de la Santé seront dans le département des Landes dès ce matin à ce sujet. Cette inquiétude, Anne Le Gall, c'est le variant Delta.
Voilà, c'est un virus 40% plus contagieux, donc il va continuer à gagner du terrain, c'est inévitable. Ce variant Delta représente déjà 70% des nouvelles contaminations dans les Landes, et le Centre européen de contrôle et de prévention des maladies estime qu'il sera responsable fin août de 90% des nouvelles infections en Europe. Donc la seule parade avec les gestes barrières, c'est la vaccination complète avec deux doses. Or, chez les plus de 60 ans en Europe, il y en a 4 sur 10 qui n'ont pas reçu leurs deux doses et donc qui sont vulnérables.
Est-ce qu'il y a des solutions qui pourraient permettre effectivement de dépasser le plafond de verre?
Voilà, aller au-delà des 70% de vaccinés, c'est possible, c'est réaliste, puisque les anti-vaccins représentent moins de 10% de la population. Donc il faut convaincre les derniers hésitants, faciliter la prise de rendez-vous. Et pour cela, le ministère de la Santé mise beaucoup actuellement sur la vaccination Moderna en pharmacie, option encore mal connue des Français, sur la communication vers les publics les plus âgés, et surtout sur le raccourcissement du délai entre deux doses, parce qu'il est encore possible de recevoir ces deux injections avant un départ en vacances fin juillet ou en août.
Dossier signé Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1, et vous retrouvez évidemment toutes les informations sur la progression du variant Delta sur notre site europe1.fr.
Progression forte aussi en Israël, pays pourtant très vacciné et qui contraint les autorités à reporter d'un mois l'accueil des touristes. Ce sera finalement début août. Le tourisme en France cette fois, il en sera question en détail tout à l'heure à 13h sur Europe 1 dans l'émission La France bouge, puisque le secrétaire d'État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, sera l'invité de cette émission jusqu'à 14h.
Une meilleure rémunération des agriculteurs. Cet objectif à nouveau mis sur la table avec une proposition de loi.
Oui, c'est déjà la deuxième réforme sur ce thème au cours du même quinquennat, preuve de la complexité du sujet. Ce texte concernera aussi les étiquettes des produits alimentaires, mais ne pensez pas qu'on va y gagner en traçabilité, c'est même tout l'inverse. Explication à hauteur d'emballage avec Maud Descamps.
Des lasagnes à la viande ou un plateau de charcuterie avec pour seule indication sur l'emballage deux lettres UE, Union Européenne. Viande française, belge ou polonaise, vous n'en saurez rien. C'est la brèche qu'ouvre le texte discuté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Pour que la mention du pays d'origine soit obligatoire, il faudra prouver qu'un lien existe entre l'origine du produit et ses propriétés nutritives, par exemple. Une aberration pour Olivier Andreau de l'UFC Que Choisir.
On est vraiment scandalisé par cette proposition de loi puisqu'elle va complètement à rebours des demandes des consommateurs. Les consommateurs, après les multiples scandales alimentaires, veulent une transparence totale sur les recettes de l'industrie, notamment sur l'origine de leurs ingrédients, tout simplement pour des raisons d'hygiène, des raisons de traçabilité. Et puis, plus généralement, on voit maintenant que les consommateurs sont également soucieux de participer à l'économie locale.
Il y a quelques semaines, le géant Lactalis a obtenu l'annulation de l'étiquetage géographique sur les produits laitiers, arguant qu'utiliser du lait français, belge ou encore espagnol n'a aucune importance. Le produit final est le même.
Éclairage de Maud Descamps.
Une affaire bien mystérieuse à présent, qui se déroule dans l'univers de l'Église catholique avec une sanction rarissime.
Une religieuse expulsée définitivement de sa communauté, les dominicaines de Pont-Callec dans le Morbihan, sanction validée par le Vatican lui-même. Oui mais voilà, il est grand le mystère de la faute reprochée à cette religieuse puisqu'elle-même n'en sait rien, Pierre Arbulo.
Exfiltrée en paria, sans même pouvoir récupérer ses affaires, cet automne, la sœur Marie Ferréol est contrainte par des émissaires du Vatican de quitter Manu Militari, la communauté religieuse bretonne dans laquelle elle vit depuis 34 ans. Une exclaustration dans le droit de l'Église qui vient tout juste d'être confirmée sans que la religieuse n'en connaisse les motifs exacts, rien de plus qu'une faute grave sans rapport avec des affaires de mœurs ou de sexualité. Un simulacre de justice canonique, dénonce son avocate Adeline Le Gouvello, qui ironise. Au moins, elle évite le bûcher.
Alors, dans un autre temps, peut-être qu'on avait de meilleures garanties finalement. Par exemple, au temps de l'Inquisition, il y avait un vrai procès avec des avocats. De manière générale, nous nous sommes systématiquement heurtés à un mur. Pas de pièces, pas de dossier, pas d'entretien, pas de défense. Et le pire, c'est que dès qu'elle a sollicité quelque chose, on lui disait qu'elle faisait du mauvais esprit, que ça n'était pas acceptable.
Aujourd'hui, plus aucun recours n'est possible. Un irrespect total du droit canon qui pourrait partir d'une simple querelle théologique, d'après des témoignages recueillis par l'avocate. Une fidèle aurait reproché à Marie Ferréol son interprétation des textes de saint Thomas d'Aquin, avant de faire jouer ses relations à Rome pour éloigner la bonne sœur de la communauté.
Pierre Herbuo.
Et puis c'est une expérience étonnante que nous propose le DJ Michael Canitro, installé dans des monuments pour mixer sa musique et pour en faire un film.
Oui, une sorte de clip géant finalement. Mont-Saint-Michel, château de Vincennes, château de Pierrefonds également. Hier soir c'était dans un phare, ou plutôt au sommet d'un phare. Reportage d'Angèle Châtelier pour Europe 1.
Sur la pointe de l'île de Ré, le phare des baleines est illuminé grâce à une soixantaine de projecteurs de lumière ou de néons. Le DJ Michael Canitro, lui, y a installé ses platines tout là-haut. Et pour y accéder, il faut monter des marches.
Petit à petit, ça va bien se passer.
Beaucoup de marches.
J'ai dû le faire à peu près 5-6 fois déjà. Ça fait les cuisses.
Près du but, un technicien s'occupait des derniers préparatifs.
Vous allez devoir enjamber un appareil lumière.
Puis 257 marches plus tard.
On voit l'ensemble de l'île dorée d'un côté et de l'autre côté l'infini de l'océan. On est super, c'est une vue vraiment incroyable.
L'idée du projet de Michael Canitro, appelé le Monumental Tour, jouait à l'intérieur de monuments pour valoriser notre patrimoine, mais pas que.
C'est aussi de continuer à démocratiser la musique électronique. Rien de mieux finalement que de pouvoir justement la jouer dans des sites qui ne sont pas faits pour ça, et de pouvoir montrer finalement qu'elle est compatible avec tous les univers et toutes les générations aussi.
Le DJ a commencé à jouer une fois la nuit tombée. Niché sur le phare des baleines, il ne voit pas lui les lumières s'agiter au rythme de sa musique. Seuls les spectateurs pourront en profiter lorsque le film de ce concert, aussi musical que visuel, sera en ligne dans quelques jours.
Je vous vois, Mathieu, vous tapez du pied.
Je ne connaissais pas, moi,
sur le sol.
Michael Canitro.
Cette musique électronique qui sera donc bientôt en images également. Et à propos de films, le jury du Festival de Cannes a été dévoilé à l'aube ce matin. On ne connaissait que son président, le réalisateur américain Spike Lee. On apprend qu'il y aura à ses côtés Mylène Farmer, c'est un sacré événement, mais aussi Mélanie Laurent ainsi que Tahar Rahim, le Festival de Cannes qui commence dans 2 semaines, le 6 juillet.
Moi c'est ce film-là que je veux voir. Tahar Rahim, Mélanie Laurent, Mylène Farmer, réalisé par Spike Lee, je prends mes billets tout de suite.
C'est les 4 fantastiques.
Merci François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1, il est 8h13.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À suivre, l'invité de Sonia Mabrouk, l'interview de Sonia Mabrouk avec Manuel Valls, l'ancien Premier ministre. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, l'ancien Premier ministre Manuel Valls.
Bienvenue à vous et bonjour Manuel Valls.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Une soirée folle hier à Budapest lors du match Portugal-France, des pénaltys, les buts de Karim Benzema, des difficultés aussi parfois dans cette équipe tricolore. Est-ce que le passionné de foot que vous êtes pense que cette équipe tricolore va aller loin dans cet Euro ?
Le passionné, mais pas le spécialiste. Oui, je l'espère. Je l'espère pour cette équipe de France qui a déjà gagné une magnifique Coupe du Monde en 2018 et qui pétrit de talent. Nous l'espérons. C'est au fond le sport, le football, ce sport populaire nous donne à nous, aux supporters, un immense plaisir.
Alors, autre match, on aimerait savoir, Manuel Valls, de qui vous êtes le supporter. Je parle évidemment des régionales. Votre appel à ne pas voter pour l'alliance de la gauche, comprenant la France insoumise en Ile-de-France, a suscité une avalanche de réactions. Tout d'abord, pourquoi est-ce que vous estimez que ce serait une faute politique et morale de voter pour un tel attelage ?
Mais parce que, malheureusement, l'alliance des écologistes et des socialistes avec la France insoumise, dont on connaît les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, il y a encore un peu complotiste, les ambiguïtés, les compromissions de membres des listes de la France insoumise en Île-de-France avec l'islamisme, avec par rapport à la lutte contre l'antisémitisme, par rapport au soutien aux policiers, l'ambiguïté sur la laïcité, tout cela nous le savons, ça n'est pas nouveau. S'allier avec cette gauche, oui, c'est une faute morale et politique. C'est pour cela que, en 2016, il y a donc déjà 5 ans, j'avais parlé de ces gauches irréconciliables. On ne peut pas s'allier avec Jean-Luc Mélenchon et avec ses amis.
Et on peut noter que vous reprenez peu ou prou les mêmes mots que Valérie Pécresse, qui dit, elle, que c'est une alliance avec les indigénistes et les islamo-gauchistes décroissants. C'est cela, véritablement, cet attelage et le risque de cet attelage en Île-de-France ?
Écoutez, ces personnalités, Jean-Luc Mélenchon, Clémentine Autain, se sont rendus par exemple à cette manifestation du 10 novembre 2019 pour contre l'islamophobie, ce mot d'ailleurs qui a été utilisé il y a 30 ans par le régime iranien pour clouer au pilori l'intellectuel Salman Rushdie. Dans cette manifestation, il y avait des antisémites, il y avait des islamistes, il y avait des enfants à qui on avait mis des étoiles jaunes. Enfin bref, tout cela, ce ne sont pas que des symboles. Sur les listes en Seine-Saint-Denis ou en Seine-et-Marne, il y a des personnages qui n'ont rien à voir avec la gauche. Bref, donc, nous le savons, ça n'est pas possible. Et face à cela, il faut évidemment être clair et rejeter cette alliance.
Et jusqu'où va votre clarté ? Par exemple, Jean-Paul Huchon, dans le magazine Le Point, appelle sans hésitation à l'ancien président socialiste de la région Île-de-France à voter Valérie Pécresse. Est-ce que vous appelez également à ce vote ?
Donnez-moi quelques secondes, Sonia Mabrouk. Moi, je suis toujours très, très clair. Et vous savez, j'ai en mémoire, au lendemain du premier tour des élections régionales de 2015, ça fait longtemps pour vos auditeurs, mais Premier ministre, chef de la majorité, je m'étais rendu sur un journal de TF1 pour dire qu'il fallait voter Xavier Bertrand, Christian Estrosi, Philippe Richard, c'est-à-dire les présidents sortants de droite, menacés par l'extrême droite. Et la gauche, d'ailleurs, avait retiré ses listes. Donc, moi, je suis toujours très clair. Et je me réjouis, par exemple, de voir un Xavier Bertrand dans sa région Hauts-de-France, soutenir au cantonal les candidats de gauche face à l'extrême droite. Face aux extrêmes, il faut être très clair. Alors, venons à l'Île-de-France. S'il n'y a pas de danger de cette liste de gauche en Île-de-France, alors on peut voter, par exemple, pour les listes de La République En Marche, celles de Laurent Saint-Martin ou de Marlène Schiappa, qui sont impeccables en matière de défense de la République, de défense de la laïcité, et qui sont talentueux.
Mais si il y a un danger. Mais vous le savez.
Si on considère qu'il y a en effet un danger à partir de l'addition des trois listes de gauche face en plus à l'abstention massive, alors il faut voter pour Valérie Pécresse, il ne faut pas hésiter. Et comme je suis franc, direct, je voterai Valérie Pécresse parce que je considère qu'il y a ce danger. Face au danger de ceux qui ont tourné le dos à la République, il ne faut pas hésiter. S'il y a le moindre danger, il faut qu'il y ait un vote.
Donc Manuel Valls, vous appelez, et on l'entend dans votre logique et votre clarté, dites-vous, et sans hésitation, et là je reprends votre mot au danger, à voter Valérie Pécresse en Île-de-France, pour ne pas laisser cet attelage arriver en tête de la région.
Absolument, comme l'a dit très bien et très tranquillement Amin El Khadmi, le président du printemps républicain, comme le dit Jean-Paul Huchon. Je connais les anathèmes, les étiquettes.
Ils vont loin. Jean-Luc Mélenchon vous a vertement répondu, affirmant que vous concernant, Manuel Valls, le post-franquisme est un naufrage. Et j'imagine qu'une telle référence vous fait réagir.
Oui, parce que d'abord, elle insulte ma famille, les engagements de mon père, mes propres engagements. Mais bon, écoutez, il m'avait traité de nazi il y a quelques années, post-franquiste aujourd'hui, il y a une forme d'amélioration, il vaut mieux répondre par l'humour. Mais c'est cette outrance qui est insupportable. Lui qui a été incapable de choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen en 2017. Mais peu importe, il est sorti des rivages républicains, Jean-Luc Mélenchon.
Du champ républicain, Jean-Luc Mélenchon.
Oui, mais bien évidemment. Alors, bien sûr, on nous dira, il fait des beaux discours. Il a fait des beaux discours. Je l'ai bien connu il y a quelques années au sein du Parti socialiste. Mais on voit bien sa dérive. Mais vous vous rendez compte, si Marine Le Pen avait tenu les mêmes propos complotistes qu'il a tenus à propos des actes terroristes que nous avons connus et qui pourraient avoir lieu à l'occasion de l'élection présidentielle. Mais il y aurait des gens dans la rue. Les intellectuels se seraient précipités pour faire des tribunes. On aurait dit que c'est insupportable,
donc,
on aurait manifesté au nom de la
République. Qu'entendez-vous par là
donc,
qu'il y a une forme de mansuétude quand il y a de tels propos tenus par Jean-Luc Mélenchon ?
Mais oui, parce qu'il y a une partie de la gauche, et c'est pour ça que moi, avec Elisabeth Badinter, Caroline Fourest, avec Jacques Julliard et bien d'autres sur le champ intellectuel ou politique, nous essayons de tenir bon sur ce qu'est la gauche républicaine, qui n'a rien à voir avec cela. Et comme un homme de gauche républicaine, et je n'accepte pas ces étiquettes et ces insultes, je dis que quand il y a un danger, dans une région, dans une grande région, dans la première région de France, quand il y a un risque, comme nous l'avons fait vis-à-vis du Front National, il faut clairement dire, on n'accepte pas la possibilité d'une victoire d'une gauche dans laquelle il y a
Emmanuel Valls,
les Insoumis,
et tout aussi clairement,
les amis de Jean-Luc
Mélenchon. Partie de la gauche estime que vous êtes très mal placé pour donner des leçons, que votre itinérance politique, on vous le rappelle sans cesse entre Paris et Barcelone, vous disqualifie pour revenir donner des leçons en France. Et je vais vous citer quelqu'un que vous connaissez certainement, Stéphane Troussel, président socialiste du département de la Seine-Saint-Denis, qui vous renvoie à une manifestation en Espagne avec l'extrême droite. L'extrême droite, à chaque fois, on vous la jette, pardonnez-moi, la figure mais pour c'est... vous disqualifier.
Mais vous savez, bon, là aussi, je ne veux pas être long. J'ai été le premier en Espagne, dans une longue interview, je crois que c'était en 2018, dans El País, grand journal de référence de la gauche, à dire qu'il fallait un cordon sanitaire vis-à-vis de l'extrême droite, Vox, qui était en train de sortir, d'apparaître pour la première fois en Espagne, étant créé un choc. J'ai voté socialiste aux dernières élections régionales en Catalogne. Grâce à mes voix, c'est une maire de gauche qui a été élue à Barcelone pour empêcher que la ville ne tombe dans les mains des indépendantistes. Écoutez, moi j'ai été Premier ministre, j'ai été député, j'ai été maire d'Évry. On connaît mes positions de défense de la République, de la laïcité. On connaît mon engagement contre
l'islamisme. Vous avez besoin de vous justifier, Manuel Valls.
Non, mais j'étais le premier à poser ces mots. Moi, je comprends tout à fait qu'on me critique. J'étais d'ailleurs sur votre antenne pour présenter le livre qui explique aussi mes contradictions, mes erreurs, mes changements. Je suis un être humain, fait pétri d'esprit, de sang, et je peux me tromper comme tout le monde, mais sur les combats essentiel, la défense de la République, de la laïcité, la lutte contre l'islamisme. J'ai gouverné sous la présidence de François Hollande dans les moments les plus difficiles face au terrorisme. Donc je peux donner mon avis de temps en temps sur ce qui me paraît être essentiel.
Évidemment, et c'est cela la démocratie. Oui. Et c'est cela la démocratie. Mais allons plus loin.
Mais heureusement, c'est ça qu'il faut défendre. Mais l'idée qu'une certaine partie de la gauche vous disqualifie, mais écoutez, on le voit tous les jours, vous en êtes vous-même victime, comme d'autres journalistes politiques, c'est parce qu'ils savent que j'ai raison sur ce sujet-là, que cette alliance entre les socialistes et écologistes et Jean-Luc Mélenchon, elle est mortifère.
Allons plus loin, Manuel,
pour la gauche et pour la République.
Et ce n'est pas, parce que vous allez me dire peut-être que c'est de la politique fiction, mais par exemple, un duel, un choix entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Qui est le plus dangereux? Est-ce que votre choix est vite fait?
Ah mais ça serait un choix terrible à faire.
Eh oui, mais je vous pose la question.
Eh oui, mais moi, je veux l'éviter. C'est précisément cette tenaille que je veux, dont je ne veux pas.
Donc il y a une tenaille
Raphaël
entre
Toven, qui
une
est
extrême
un ami,
droite et une extrême gauche.
Philosophe a répondu à cette question. Mais ma vie politique n'est pas faite uniquement avec ces cauchemars. Moi, je réponds à vos questions sur la région Île-de-France parce que c'est la réalité. Mais voilà ce qu'il faut éviter, même si c'est un scénario peu probable. Mais voilà ce qu'il faut éviter. Je ne veux pas de cela pour mon pays.
Mais c'est vous les mettez sur le même plan, Manuel Valls, pour qu'on comprenne, selon vous, quels sont les dangers aujourd'hui. Est-ce que vous les mettez sur le même plan, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon?
Oui, bien sûr, sans aucune hésitation. Bien évidemment, mais sans aucune hésitation, donc il faut tout faire pour éviter ce type de scénario.
Vous avez confié au journal El Mundo que vous alliez prochainement quitter votre poste de conseiller municipal de Barcelone. Votre choix, cette fois-ci, est définitif. Ce sera la France. C'est la France ?
Non, mais le choix de cœur, de patriotisme, a toujours été la France. J'ai écrit un livre, pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines pour dire au fond ce qu'était mon rapport à la France. Et je serai en effet, mais je l'ai déjà dit, beaucoup plus présent dans le débat public, dans le débat politique, pas pour m'engager sur des listes, mais pour donner mon sentiment sur les grands défis du pays, sur la transition écologique, politique, sur le défi de l'immigration, sur l'avenir de l'Europe, sur le fond et au fond, sur la crise démocratique, parce que c'est ça qui me frappe le plus et c'est ça qui est une des leçons,
me semble-t-il, de ces élections régionales. C'est aussi le plus important, effectivement, un niveau vertigineux de l'abstention. Vous entendez un petit peu les deux versions qui sont données. L'abstention, c'est soit une France en colère qui n'a pas voulu venir s'exprimer, ou soit une France, finalement, qui n'est pas si en colère que cela et qui s'est désintéressée du scrutin. Quelle est votre opinion ?
C'est une sécession démocratique dans d'autres pays. À ce point,
une sécession ?
Oui, c'est une sécession démocratique. Écoutez, on peut pas. Il y a toujours eu des élections locales. Les collectivités territoriales ont de plus en plus de pouvoir. Nous le savons bien. Dans d'autres pays, en pleine crise du Covid, il y a eu des élections, y compris des élections présidentielles aux États-Unis, des élections régionales en Espagne, des élections législatives en Italie ou en Israël. On n'a pas eu ces taux d'abstention. Donc il y a là un problème dans lequel nous sommes tous collectivement responsables. Comment on redonne goût à la démocratie, enfin avec un tel niveau de participation ou d'abstention, même si nous savons probablement à l'élection présidentielle ça ne sera pas le cas, mais il y a aussi des risques d'abstention. On voit bien qu'il y a des gens qui ne vont plus voter, donc ça doit nous interpeller. Il y a évidemment une somme de raisons, mais ça doit nous interpeller. La question de la relation avec la démocratie.
Merci Manuel Valls. Nous étions arrivés à la fin de cet entretien avec ce problème technique. En tous les cas, on a entendu les réponses ce matin de l'ancien Premier ministre et très particulièrement une réponse qui va certainement faire beaucoup réagir puisque Manuel Valls appelle à voter en Île-de-France à Valérie Pécresse pour faire barrage à l'Alliance de la gauche. Je remercie l'ancien Premier ministre et je souhaite une bonne journée ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci Sonia Mabrouk. Il est 8h29 sur Europe 1.
Europe 1. Mathieu Béliard.
À suivre un nouveau journal, la météo de Laurent Cabrol et le journal de l'Euro, bien sûr. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h31 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Marion Calais.
Ils sont attendus dans une demi-heure à Mont-de-Marsan, le Premier ministre et son ministre de la Santé dans les Landes ce jeudi, alors que dans le département la situation sanitaire se dégrade, trop tôt d'incidence en hausse à cause de la progression du variant Delta. Il y représente 70% des contaminations. 30 ans après, le combat continue pour Omar Radat. Son avocate va déposer aujourd'hui une requête en révision de sa condamnation pour le meurtre de Ghislaine Marchal. C'est la fameuse affaire Omar m'a tué, requête déposée après la découverte de 4 empreintes génétiques non identifiées sur la scène de crime. L'enjeu de la mobilisation pour le second tour des départementales et régionales dimanche, avec toujours un risque élevé d'abstention. Selon un sondage IFOP pour nos confrères du journal du dimanche, seulement 36% des Français auraient l'intention d'aller voter dans 3 jours. Le début aujourd'hui d'un sommet européen à Bruxelles, avec de nombreux sujets sur la table. On vous parlait tout à l'heure à 8h de cette loi hongroise anti-LGBT. Il devrait aussi être question des relations avec la Russie. De nouvelles mesures annoncées par Joe Biden contre la circulation des armes à feu aux États-Unis. Le président américain a confirmé cette nuit la création de 5 unités spéciales contre le trafic d'armes à New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco et Washington. Et puis il n'y a pas que le foot, il y a aussi l'Euro de basket avec les Françaises. Au rendez-vous pour le dernier carré. Elles se sont qualifiées hier pour les demi-finales. Victoire 80-67 contre la Bosnie-Herzégovine. Elles joueront leur place pour la finale samedi contre le Bélarus.
Merci beaucoup Marion Calais. 8h33, c'est Laurent Cabrol qui est avec nous, un nouveau point météo.
Et avec l'humidité et la fraîcheur au programme aujourd'hui encore, sur les deux tiers de la France, nous aurons des températures entre 18 et 23 degrés. Quand je dis les deux tiers, seul le bassin méditerranéen en fait sera concerné par les températures supérieures entre 28 et 30. Bon, il fait froid, il s'est humide, mais nous aurons quand même du soleil à la fois en Méditerranée et des éclaircies qui vont poindre sur la région parisienne, la Champagne, la Pays de la Loire, le Poitou-Charente et les côtes de la Manche. Ce sont des éclaircies fugaces, hein, n'exagérons rien. Sur les régions de l'Est, c'est de la pluie avec des orages. Alsace, Vosges, Franche-Comté, Alpes du Nord et puis région lyonnaise. Des orages qui seront assez fréquents dans cette partie de la France et parfois même très méchants. Aquitaine, Béarn, Midi-Pyrénées, Auvergne, Bourgogne et Ardennes, ce sont plutôt là, disons, ce sera un régime d'averse, sans plus. Mais enfin, c'est un temps qui sera dans l'ensemble assez sympathique quand même.
Merci beaucoup Laurent Cabot. Le journal de l'Euro, ça c'est l'info qui vous donne le sourire le matin, avec Jean-François Pérez. Bonjour Jean-François.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
C'était dur, c'était parfois laborieux, faut bien le dire, dans la fournaise de Budapest, les Bleus ont obtenu ce qu'ils voulaient.
Oui, la première place du groupe F et un adversaire a priori abordable, hein, la Suisse. Alors, ça sera à Bucarest lundi prochain à 21h. Mais avant d'en arriver là, que de frayeurs, que d'émotions face à un Portugal toujours aussi accrocheur. De partout, rencontre âpre, un peu folle aussi, hein, disputée sous une chaleur étouffante et dominée par le talent de deux joueurs hors normes. On va parler d'abord de Karim Benzema, élu homme du match, buteur et même double buteur pour la première fois depuis 6 ans en bleu, pour le plus grand plaisir de son coéquipier au Real Madrid, Raphaël Varane.
On est bien sûr très content. C'est un grand joueur. Maintenant, revenir en équipe de France comme ça, c'était pas évident. Et il a montré du caractère et voilà, il nous permet voilà, avec ses deux buts d'obtenir ce bon résultat et la première place. Je pense qu'il avait vraiment besoin de ses buts pour la confiance. C'est un attaquant. Il a réussi à faire jouer ses partenaires et à être efficace. Donc c'est ce qu'on attend de lui. Il y avait beaucoup d'attentes autour de son retour et il a répondu présent.
Voilà le compteur débloqué grâce à Benzema. Les Bleus arrachent ce point précieux, mais l'addition est salée quand même, hein, puisque Lucas Digne est blessé aux ischio-jambiers. Son euro est peut-être terminé, on en saura plus aujourd'hui. Et, oui, et puis, 5 joueurs quand même hier soir ont reçu un avertissement. Alors attention à la suspension en quart de finale en cas de récidive.
L'autre immense bonhomme de ce match, ce fut bien sûr Cristiano Ronaldo.
Et oui, la légende Ronaldo qui n'avait jamais marqué face à la France. C'est incroyable. Hein, ben voilà, hier soir, il a inscrit 2 pénaltys qui portent son total de buts en sélection à 109. Autrement dit, le record historique de l'Iranien Ali Day, qu'on pensait imbattable, est égalé et il sera sans doute battu dans les jours qui viennent. Autrement dit, à 36 ans, le quintuple Ballon d'Or est toujours le phare du foot portugais.
Le classement final de ce groupe F.
La France qui termine donc en tête avec 5 points devant l'Allemagne, 4 points au terme d'un match fou face à la Hongrie. La Hongrie qui a failli réaliser un exploit monumental, score final 2-2. Le Portugal est 3e mais également qualifié. En revanche, la valeureuse Hongrie est éliminée.
Alors on connaît donc l'affiche complète de ces 8e de finale désormais.
A commencer par le possible adversaire des Bleus en quart de finale s'il domine la Suisse, Simon Rubin.
Oui, Croatie-Espagne, un match très équilibré entre des Croates qui sont en fin de cycle et une équipe espagnole en reconquête, pas totalement sereine mais qui monte en puissance. Toujours dans la partie de tableau des Bleus, ce dimanche, Belgique-Portugal, très gros choc, hein, deux équipes qui nourrissent des ambitions bien légitimes, ça s'annonce très serré. Ce samedi, Italie-Autriche, là pour le coup un large favori c'est l'Italie, que la France pourrait retrouver en demi-finale. Et puis dans l'autre moitié de tableau, mardi prochain, match d'outsider entre la Suède et l'Ukraine. Et puis un choc digne d'une finale, Allemagne-Angleterre à Londres. À Amsterdam, samedi, le Pays de Galles et le Danemark joueront une place en quart pour affronter le vainqueur du match entre les Pays-Bas et la surprenante équipe de République tchèque.
Allez, on termine avec ce clin d'œil, cette histoire, il faut bien le dire, qui nous a beaucoup fait sourire, une histoire improbable.
L'histoire de ces supporters français, 6. Ils voulaient soutenir leur équipe lors de ce premier tour. Tout était prêt, programmé. Puis en arrivant à Budapest, ils se sont dit que ça ne ressemblait pas forcément à ce qu'ils imaginaient. Pas de Danube, pas de palais impérial, pas de supporters hongrois. Normal. Ils étaient à Bucarest. Ils avaient juste pris quelques jours d'avance avant le 8e de finale de l'équipe de France.
Bon, ça se joue à quelques lettres, malheureusement pour eux. Merci Jean-François. Et bon retour à Paris pour vous avant de filer à Bucarest. Donc Bucarest.
Absolument. Hein. Et bon, pas
vous,
Budapest.
Oui, vous connaissez bien, vous, cela dit.
Si on ira à Bucarest.
8e de finale des Bleus contre la Suisse, ne vous trompez pas, 8h30. À suivre, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed.
Et je vais vous parler de côte de bœuf, de saucisses, de merguez, mais aussi de charcuterie. Et vous allez voir que pour votre santé, les viandes rouges sont à consommer avec modération.
A tout de suite sur Europe 1. J'ai déjà faim là.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h39 sur Europe 1, notre santé avec le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
La consommation de viande rouge serait tout simplement dangereuse pour notre santé ?
Oui, c'est une donnée qu'on avait déjà, mais qui vient d'être formellement validée par l'université d'Harvard. L'excès de consommation de viande rouge serait néfaste pour notre tube digestif et plus particulièrement notre côlon. Le Centre international de recherche sur le cancer avait déjà classé en 2015 les viandes rouges comme cancérogènes probables et les viandes ultra transformées comme la charcuterie ou les saucisses comme cancérogènes avérées. La nouvelle donnée, c'est que les chercheurs ont réussi à identifier ce qu'on appelle une signature génétique du cancer du côlon, favorisé notamment par la consommation de viande rouge.
Une signature génétique ? On a retrouvé des traces de viande dans l'ADN en quelque sorte ?
Oui, exactement. Ils ont suivi près de 300 000 personnes depuis les années 70 et ils ont identifié ceux avec un cancer du côlon. Et quand on regarde de plus près leur ADN, eh bien on s'aperçoit que celui-ci présente un composé très particulier qui mène directement à la piste de la viande rouge, mais aussi aux additifs nitrés que les industriels mettent dans les viandes ultra transformées. Les chercheurs se sont donc aperçus que les patients qui avaient cette modification de l'ADN associée au cancer avaient consommé plus de viande rouge que les autres.
Alors, quels sont les recommandations alors de consommation de viande rouge?
Alors normalement, c'est pas plus de 500 grammes de viande rouge par semaine et de ne pas dépasser 150 grammes de charcuterie d'une façon générale. Évidemment, si votre budget vous le permet, évitez à tout prix les produits ultra transformés comme les nuggets de poulet par exemple, dont les enfants raffolent, car ils sont pauvres en viande et bourrés d'additifs. Enfin, pour ceux qui vont reprendre les barbecues dès qu'il fera beau, sachez que la cuisson à très haute température peut être à l'origine, elle aussi, de composés cancérigènes. Quelques règles simples à respecter, comme éviter que la viande ne soit au contact des flammes. L'idéal étant de placer la grille, et eh oui, des conseils barbecue, à moins de 10 cm des braises. C'est l'agence sanitaire du médicament
qui dit ça.
Au
moins 10 cm, c'est ça ?
Exactement, oui. Des braises. On privilégie le charbon de bois épuré au charbon de bois ordinaire. Et quant aux allumes-feux destinés à favoriser l'allumage, attendez qu'ils soient complètement brûlés avant de placer votre viande à griller.
Je me suis toujours demandé ce qu'ils mettaient dedans pour que ça flambe aussi bien et aussi longtemps. Vous avez bien raison. Merci Jimmy Mohamed. Tiens, entre 15h et 16h, c'est sans rendez-vous avec Mélanie Gomez.
Oui, on va parler de votre peau avec l'été, on va vouloir s'exposer au soleil et on va vous aider à décrypter les petites tâches du quotidien.
A tout à l'heure, 15h sur Europe 1. Notre planète à présent, c'est Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors Fanny, vous nous dites que la bière permettrait... Décidément Jimmy et Fanny, vous vous êtes concertés hein, entre le barbecue et,
même pas,
et Fanny
même
Agostini.
Pas.
Fanny, vous nous dites que la bière permettrait aux vaches de produire plus de lait.
Alors attention, pas directement là.
Mais vous savez qu'on masse, vous savez, le bœuf de Kobe là, je sais plus si c'est
oui,
le cas, je dis peut-être une bêtise,
c'est le bœuf de Kobe, oui, on masse à la bière.
C'est le bœuf de Kobe qu'on masse à la bière, oui.
Voilà, mais c'est pas ça dont je veux vous parler ce matin. Je parle pas directement de la bière, mais des résidus issus du brassage. Il s'agit en fait d'un sous-produit que l'on appelle la drèche. Au bout de la chaîne de production, après
oui, c'est
avoir
c'est
brassé
de la
bière,
oui, c'est de la céréale bouillie, la drèche, oui.
C'est ça, exactement. On obtient cette drèche et ça, les vaches en raffolent. Et en plus du fait que cet aliment favoriserait en effet leur lactation, c'est ce dont s'est rendu compte un brasseur corse, Gloria, qui travaille en partenariat avec les agriculteurs locaux autour de Calvi pour valoriser effectivement ce qui habituellement finit en déchetterie.
Oui, c'est vrai qu'on les jette, ces résidus représentent un potentiel immense.
Alors pour l'agriculture notamment, on l'a dit, surtout en période de sécheresse, quand l'herbe vient à manquer, ne permettant pas de faire des stocks de foin suffisants pour la période hivernale, la drèche, si elle est systématiquement redirigée sur des fermes à la sortie du brassage de la bière, pourrait aussi avoir une grande utilité, car pour l'instant en France, une infime partie de cette drèche est utilisée en compost ou pour les animaux d'élevage, mais globalement c'est du déchet qui fermente en déchetterie. Le ratio, c'est en moyenne 300 kg de drèche pour 1000 litres de bière brassée.
Ouais, ça va vite.
Ah oui, des milliards de litres de bière sont consommés, ça laisse imaginer des monticules de drèche qui sont même économiquement et logistiquement compliqués à gérer.
Vous connaissez un brasseur près de chez vous, Fanny ?
Il y en a plein.
Non, mais parce qu'avec les drèches, vous pouvez faire un super paillage dans
le
jardin.
Ah oui, c'est vrai.
Et moi, j'en donne aux poules. J'avais un copain brasseur qui me donnait ces drèches. Alors, il n'y a pas que l'agriculture.
Bonne idée, je garde.
Il n'y a pas que l'agriculture. Cette drèche peut trouver aujourd'hui une nouvelle vie dans de nombreux domaines.
Alors tenez Mathieu, un autre exemple, le pain, la drèche peut aussi s'utiliser en boulangerie, la filière commence d'ailleurs tout juste à s'en saisir, la drèche est effectivement panifiable, il y a donc un partenariat brasserie-boulangerie, pourquoi pas, qui pourrait offrir des débouchés extrêmement variés, et une nouvelle vie très original aussi que l'on peut donner à ces résidus fibreux, c'est la confection de mobilier compressé. La drèche devient une matière première extra pour mouler des meubles légers, résistants, flexibles, malléables et en plus imperméables. On peut donc créer des tabourets, des tables, des bancs, des lampes, des panneaux acoustiques et tout un tas d'accessoires brassicoles comme des dessous de verre, des caisses de transport, etc. à partir de la bière. Un exemple parmi tant d'autres tout aussi surprenant qui doit nous faire penser à la conception et la fabrication de tout ce qui nous entoure autrement, particulièrement dans les process industriels qui rejettent des quantités massives de chutes ou de résidus en tout genre.
Bon, après le barbecue de Jimmy Mohamed, on a les bières. Je vais la dénoncer. J'ai un coucou pour vous, Fanny Agostini, d'une personne de la rédaction. C'est Isabelle Horry, notre correspondante à Bruxelles, qui m'écrivait à l'instant. Merci pour ces infos sur les drèches. C'est pas étonnant que ça vienne de Belgique. Hein. Entre nous, c'est pas étonnant
c'est
que ça vienne de Belgique ce matin. Notre planète, Fanny Agostini, merci beaucoup. 8h45, Julie est déjà là. Elle attend. Nicolas Canteloup arrive. A tout de suite.
Europe Matin. Le 7-9. Mathieu Béliard.
8h47, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est
presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour le titre principal de l'actu. Heureux de vous retrouver, Mathieu.
Eh oui, bonjour, bonjour, Jésus, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver. Bienvenue sur Europe 1. Heureux de vous retrouver, moi aussi, bien sûr. Et merci à mes deux chroniqueurs, Jimmy Mohamed, qui fait une spéciale barbecue avec tout ce qui est charcuterie, viande chipolata, et Fanny Agostini, qui parle de bière. Ça m'a rappelé récemment ma semaine de vacances. Enfin, c'est pareil, sauf que c'est un peu moins payé. Allez, aujourd'hui, l'actualité, vous le savez, c'est surtout un jour de qualification de l'équipe de France, car c'est l'actualité ce matin. L'équipe de France qui a fait un formidable match dans lequel les Bleus ont quand même encaissé deux pénaltys, notamment suite à un véritable uppercut du Golorie sur un adversaire. Et c'est vrai que... Oh oui, cacher la margoulette.
Oh, votre expression du jour. Stéphane Bern, oui. Bonjour.
Bonjour Julie. Cacher la margoulette qui s'assimile à casser la gueule. Oui, qui veut dire grosso modo oui, casser la gueule, c'est ça. C'est une expression qu'on peut situer fin 19e voire début 20e. Mais non, allons Laurent, pas début 20e, siècle, début 20e minute de match. Ah bon, oui, ça s'est passé à ce moment-là. Lorsque notre gardien français, Hugo Lloris, a bondi point en avant pour faire sauter 18 dents à son adversaire portugais. Alors en anglais, on dit ça « to be destroyed the mâchoire by the goalkeeper ». En portugais, on dit « un match d'Hugo Lloris el Mike Tyson del futebol ». Voilà. Oui, mais merci, c'est bon, on connaît, on va pas faire tous les pays. Merci non. Stéphane. Allez, un match où on a pu assister, c'est vrai, à un doublé de Karim Benzema. Benzema qui plante deux buts. C'est pas ça qui va arranger, quelque part, les affaires de Marine Le Pen. Ah ben, déjà qu'apparemment, le Rassemblement National, ça marche pas fort en ce moment. Bam, Benzema qui qualifie la France, la pauvre. Il va falloir gérer. Les Bleus qui ont pris 4 cartons jaunes, tout de suite, la réaction de l'entraîneur de l'équipe de France que nous avons en direct aujourd'hui. Didier Deschamps, vous m'entendez, Didier Deschamps ?
Oui.
Oui, bonjour. Oui, écoutez, j'ai entendu effectivement 4 cartons jaunes. Voilà, bon, mais le match a été arbitré, je pense, par la mairie Corée. Hein. Mais si, là, la mairie Corée qui est venue avec ses biscottes, vous voyez, les cartons jaunes. Oui, bon, ben voilà, on fait un peu d'humour. Apparemment, c'est un moment d'humour.
Très drôle.
Et puis, on a offert donc deux pénaltys. Enfin, le premier, comme vous l'avez dit, c'est un cadeau d'Hugo Lloris. Hugo qui en avait, je pense, un peu marre de traîner tout le temps comme ça son image de gendre idéal et qui a décidé de quelque part changer d'image et de musquer son jeu. Et bon, c'est vrai que... Hugo, non. Tu laisses Léo Dubois tranquille, ok? Non, tu tapes pas dessus. Tu t'entraînes. Oui, mais tu t'entraînes pas comme ça. Tu t'entraînes autrement. Tu t'entraînes à arrêter les ballons, pas les adversaires. Excusez-moi, Madame Julie, mais il est intenable en ce moment, mon Hugo.
Je vous en prie, cher Didier.
Oui, et puis, cher Julie, cher Didier, l'autre info, c'est ce clash entre Gérald Darmanin, puisqu'on parle de boxe, et Éric Dupond-Moretti, après que Gérald Darmanin se soit vanté d'avoir fait 6 fois mieux au cantonal en résultat que la liste que soudait Éric Dupond-Moretti dans les Hauts-de-France. Les deux hommes en seraient venus quasiment aux mains d'après le journal le Parisien. Gérald Darmanin aurait même dit à son collègue « Commence par gagner une élection ». Eh bien, on a un enregistrement qui témoigne de tout cela.
Ah, oula, ambiance.
Oui, bonjour Mathieu, ici Pierre Fula en direct du Conseil des ministres Square Garden, avec dans le coin droit Éric Dupond-Moretti, 1m90 à la toise, 90 kilos, l'ogre du barreau, l'ours de Maubeuge, le grizzly qui te souhaite bienvenue chez les ch'tis, et dans le coin encore plus à droite, regardez bien, oui, penchez la tête, Gérald Darmanin, 1m22, 42 kilos, dont 30 kilos de melon, le premier flic de France, la fouine de Turcoin, la musaraigne de la mer du Nord, et c'est parti! C'est Gérald Darmanin qui attaque avec une belle déclaration. Commence par gagner une élection. Premier coup bas. Il continue avec un enchaînement de déclarations. Une campagne, ça sert pas juste à bouffer sur les marchés. Gros lard, oulala. Deuxième coup bas. Éric Dupond-Moretti est dans les cordes. Alors que Gérald Darmanin repart de plus belle. Isabelle Boulay, c'est de la merde, déclare-t-il. Oulala. Alors c'est carrément un coup sous la ceinture. En tout cas, on voit que le gouvernement fait tout pour lutter, vous l'avez compris, contre l'abstention et réconcilier les Français avec la politique. C'est pas sûr. Alors Non, Hugo Lloris est rentré sur Hugo Lloris, mais ça devient confus, les coups pleuvent de partout, ça devient même difficile. À vous Paris, à vous Julie.
Merci Pierre Fula. Allez, on va parler de la présidentielle qui aura lieu donc les 10 et 24 avril 2022. Et déjà, des voix se font entendre. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est qui?
Oui, Madame Julie, me voilà. Oui, Xavier Bertrand, c'est donc le 24 avril que je rentrerai triomphalement, je le dis, oui, à l'Élysée. Moi, l'homme qui a
rétamer tout le monde dans les Hauts-de-France, vous le savez. Je suis un peu le Hugo Loris de la politique. J'ai envoyé le Rassemblement National au tapis. J'ai battu 5 ministres d'Emmanuel Macron. J'ai explosé la France insoumise, les écolos. J'ai explosé les communistes. Attendez, je vais jouer ma scène favorite. Le Bertrand Flingueur, acte 2, scène 4. Oui, moi, quand on se présente face à moi, madame, je dynamite, je disperse, je ventile, j'éparpille façon Pulse.
Oh, ça va, allez, bon, cela dit, ça vous replace effectivement pour 2022. Hein. Vous pourriez perturber le duel annoncé Macron-Le Pen, monsieur Xavier Bertrand.
Mais exactement, écoutez, vous savez, j'ai obtenu un tel plébiscite qu'il n'y aura pas de duel Macron-Le Pen. Ah. Il y aura un duel Xavier Bertrand. Ou plutôt Xavier contre Bertrand.
Oui. Alors, Gérald Darmanin vous a félicité. Il a aussi dit que sur son canton, il avait fait 6 fois mieux que la liste LREM. On l'accuse depuis de manquer de loyauté au gouvernement et de placer ses pions, en quelque sorte.
Oui, madame Julie. Gérald Darmanin commence déjà à trahir les macronistes pour rejoindre la droite. Après avoir trahi la droite pour rejoindre les macronistes. Et je voudrais dire...
Oui, pardon, excusez-moi, je suis, resté en studio.
Mais oui, Manuel Valls, rebonjour, vous étiez avec Sonia Mabrouk tout à l'heure.
Oui, et je tenais sincèrement, solennellement à... Oui, féliciter Xavier Bertrand, un homme de valeur, oui, un homme à qui je souhaite le meilleur éventuellement pour 2022, pour cette présidentielle que nous attendons tous, un défi immense où il aura, oui, sans doute besoin d'une équipe, de personnalités d'expérience, de personnalités sincères, engagées.
Eh ben voilà, ça y est, le bonheur en politique, vous le voyez. C'est assez court, madame Julie. Je viens à peine de me refaire la cerise et j'ai déjà Manuel Valls et Gérard Darmanin dans mes faces.
Pauvre Xavier Bertrand, bon courage en tout cas. Hein. Allez, on va dire un mot de ce rapport du GIEC qui fait du bruit. Selon les scientifiques, d'ici 30 ans, les conséquences du changement climatique seront catastrophiques pour l'humanité. On va appeler le GIEC, tiens.
Oui, bonjour, vous êtes bien au siège du groupement intergouvernemental sur l'évolution du climat, ne quittez pas, je vous fais patienter en musique.
On va tous crever, on le sait, et on n'en a rien à foutre, on va tous crever, le monde sera bientôt détruit et nous on regarde plus belle la baie.
Merci d'avoir patienté, que puis-je pour vous ? Je suis le professeur Jean Lexomil.
Bonjour professeur Lexomil, c'est Europe 1 à l'appareil. On voulait avoir plus de précisions sur votre rapport. Quand vous parlez de conséquences catastrophiques, concrètement, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Vous voulez savoir comment on va tous mourir ? Mais écoutez, il y a l'embarras du choix, vous savez, c'est un peu comme un buffet chez Flunch, vous voyez. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il va y avoir l'effondrement des écosystèmes, la baisse de la productivité agricole de façon notoire, la submersion des villes côtières avec la montée des océans. Bon, bah écoutez, face à ça, qu'est-ce que vous voulez faire ? Ah bah attendez, juste un instant.
Ah bah dites donc, c'est gay, hein, au GIEC.
Voilà, j'ai mis une petite musique guillerette, comme ça, ça donnera un petit air de fête quelque part. Alors, écoutez, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous pouvez faire la chenille, faire une queue leu-leu face à tout ça, boire des mojitos, vous droguer, vous pouvez tester la bisexualité, je ne sais pas, moi. Tu sais, il n'y a plus grand-chose à faire, hein. En tout cas, voilà. Vive la vie.
Ah bah dis donc. Il n'y a pas plus dépressif,
j'aime
non.
J'aime bien le ah bah dis donc de la fin de Julie et Nicolas Canteloup qu'on retrouve sur europe1.fr. J'embrasse, on salue Philippe Cabrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche, les auteurs de la revue de presque, bien sûr. 8h56, il est là, c'est mais Philippe oui. Vandel qui va vous présenter Culture Média. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu, plaisir de vous retrouver. Notre info média du jour va s'intéresser à un nouveau média breton d'investigation. Il s'appelle Splend, ça se prononce à la bretonne, Splend, qui publie sa première enquête sur un sujet très sensible, la pollution de l'air à l'ammoniac en Bretagne. La particularité de ce média, article entièrement financé par des dons, on en parle avec l'un des cofondateurs et la journaliste qui a signé cette enquête. Au sommaire également, M6, on sera avec le patron des programmes, on va parler de Domino Challenge, une émission très ambitieuse qui démarre ce soir et qu'ils ont plus ou moins piqué à TF1, ou plutôt TF1 voulait faire la même émission, ça sera d'abord sur M6, on sera avec Guillaume Charles,
la guerre des
le
chaînes.
Directeur général des programmes, mais oui, mais ça fait le sel.
Et qui puis, seront dans le même groupe bientôt.
Mais c'est 2022 et c'est pas encore fait, donc pour l'instant c'est la baston. Et puis l'écrivain et romancier Nicolas Rey qui avait reçu le prix de Flore, et il présente son nouveau roman qui s'appelle La marge d'erreur, c'est complètement barjo.
C'est Culture Média, c'est oui. De 9h à 11h sur Europe 1, évidemment, je reste à l'écoute avec vous, Philippe Vandel, avec toute votre équipe. Très bonne journée à vous, très belle journée à toutes et à tous. On revient demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.